Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast UNADRIO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Alaria, lauréate du prix de thèse UNADRIO 2023. Cet épisode va servir d'introduction à sa présentation lors du webinaire LURCO du 21 novembre, intitulé « De l'oral dans l'écrit, quelles implications pour la pratique orthophonique pédiatrique ?» Nous vous espérons nombreux lors de ce webinaire et en attendant, bonne écoute. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas nous parler donc de tes travaux qui t'ont permis d'obtenir donc le prix de thèse UNADRIO cette année. Et donc pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter rapidement ainsi que ton sujet de thèse et peut-être le lieu où tu as effectué ta thèse ?
Bien sûr, alors bonjour Fanny et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour cette invitation. Je remercie aussi du coup l'UNADRIO pour la chance qu'on a de pouvoir parler effectivement de nos sujets, être connus aussi pour nos travaux. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est très chouette. Ça fait exister justement le fait qu'on ne fasse pas de la recherche juste pour faire de la recherche, mais qu'on puisse partager ça avec tout le monde et c'est très chouette. Alors du coup, je vais me présenter effectivement. Donc je m'appelle Laura Alaria. Je suis orthophoniste de formation, même si je m'amuse un peu à faire des allers-retours depuis le tout début entre la pratique et la recherche, puisqu'en fait, moi, j'ai débuté en faisant plutôt des sciences du langage et ce qui m'a passionnée, c'était la linguistique, on va dire, pure, et les questions que ça posait. Et puis depuis quelques temps, là, j'ai plus du tout de pratique orthophonique et je me suis tournée vraiment vers la recherche, du coup. Mais en tout cas, ce qui m'a toujours intéressée, tout ce qui m'a toujours été un point d'intérêt pour moi, c'était justement de faire du lien entre de la connaissance et puis la mettre au service de la cité, quoi. Du coup, de la pratique que ça serve. On ne fasse pas de la connaissance pour de la connaissance. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée d'ailleurs en orthophonie, parce qu'il y avait la passion pour le langage et il y avait aussi le soin, donc le service. Et du coup, ouais. J'ai fait une école d'orthophonie et en même temps, j'ai continué un cursus classique en linguistique, puis finalement en psychologie, parce que c'est la psycholinguistique qui m'intéressait vraiment. Et avec, du coup, ce diplôme d'orthophoniste et de master en psychologie, j'ai pu tout de suite intégrer un doctorat, et dans un doctorat de logopédie. Donc la logopédie, il y en a qui sont francophones de Suisse qui nous écoutent peut-être, mais la logopédie, du coup, c'est l'orthophonie, mais de l'autre côté de la frontière, côté Suisse ou côté Belgique. Moi, j'ai fait du coup ce doctorat en Suisse, à l'université de Genève. En fait, mon sujet de thèse, c'était de manière très globale, c'était les liens entre l'oral et l'écrit. Et je me suis intéressée à ce sujet-là, ce qui a fait que ma thèse aujourd'hui, elle s'appelle « Des bababas au béaba », des premiers mots aux premières lettres, la littératie sous influence, variation autour des prédicteurs de la lecture. C'est un titre à rallonge, mais c'est un peu le privilège quand on fait une thèse, on a le droit de faire des titres à rallonge.
Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce thème particulièrement ? Il y a un lien donc, entre langage oral, langage écrit, si je...
Ouais. Alors, il y a eu plusieurs raisons à ça. Déjà, pendant tout mon cursus prédoctoral, j'ai été encadrée par deux personnalités importantes, je crois, en tout cas dans la littérature scientifique au niveau du langage écrit, qui ont été d'une part Liliane Spengler-Charol, au niveau de l'écrit, vraiment, au niveau de mon master en psycho, et Gilles Leloup, au niveau de mon master en orthophonie. Et les deux avaient en fait cette intuition et m'ont un peu inspiré, incité à aller regarder ce qui se passait au niveau du lien entre l'oral et l'écrit, et notamment au niveau d'une population pathologique qu'on appelait encore à l'époque les dysphasiques, qui sont aujourd'hui donc les TDL, donc les enfants porteurs d'un trouble développemental du langage. Et du coup, ça a été déjà un sujet de recherche pour moi, pour mon mémoire. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, quand je suis arrivée à Genève, d'arriver au moment où mon futur directeur de thèse, qui est le professeur Pascal Zeziger, qui est aussi spécialisé dans le langage écrit, venait d'intégrer en fait un projet, un assez gros projet avec une grande envergure, un projet multicentrique qui se centrait vraiment sur la question de l'oral et de l'écrit, puisque la question c'était, enfin le titre du projet c'était Path to Literacy, et donc c'était vraiment le passage comment on passe, comment on entre en fait dans le début de l'écrit. Donc il y a eu, on va dire qu'il y avait deux choses concomitantes, à la fois un passif par un intérêt avec ces deux personnes qui m'avaient encadrée, le moment opportun dans lequel je rentrais dans cette équipe, et puis quand on arrive dans une équipe, et pour commencer un doctorat, effectivement, on intègre une équipe qui a souvent déjà un projet en cours. Donc, moi, j'ai dû intégrer une partie de ce projet dans ma thèse, mais j'avais aussi la liberté de faire mon propre projet. Et en même temps, j'ai commencé une pratique en cabinet libéral. Et là, en fait, j'ai commencé à croiser des patients qui effectivement, revenaient pour des difficultés de langage écrit, mais tard. En fait, qui ne s'était pas déclaré dès le début, c'est-à-dire pas dès l'entrée dans l'écrit. Et finalement, quand je creusais dans mes bilans, je voyais que ce n'était pas tellement des difficultés de l'écrit, en réalité. Ça s'exprimait à l'écrit, la plainte de l'école ou des parents venait de l'écrit. Mais quand on affinait le bilan, il y avait des choses, en fait, au niveau de l'oral. Donc, je me suis dit, mais c'est étrange. Et puis, il y avait ces fameux aussi dysphasiques ou TDL qu'on voit quand ils sont petits, qu'on ne voit plus, puis qui reviennent justement au moment où l'écrit est un peu plus demandeur. En CE2, CM1, comme ça, puis qui commence à avoir des difficultés. Et tout ça, je me suis dit, mais il y a forcément un lien entre tout ça. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cette intrication entre la pratique et la théorie qui m'ont amené à me centrer et à dire, oui, je vais intégrer ça. Puis du coup, bah oui, la population TDL, elle fait partie aussi d'une de mes études dans ma thèse. Et puis, je travaillais aussi dans un contexte très multilingue. Et donc, j'avais aussi ce questionnement autour de l'enfant multilingue, est-ce que c'est pareil quand on apprend à lire avec plusieurs langues à la base ou pas? Et ça faisait aussi un lien avec cette grande étude dont je viens de parler, la Path to Literacy, parce qu'on avait aussi un panel d'enfants, je vous dis qu'elle était multicentrique, donc on avait Genève, et on avait aussi Montréal et San Diego, où là, les enfants étaient bilingues. Donc, on pouvait aussi s'intéresser à cette question-là.
Ah oui, excellent. Donc, du coup, ta thèse, tu l'as fait en même temps que tu travaillais, tu avais une activité clinique en même temps que ta thèse.
Ouais, à temps partiel, bien évidemment. Je ne suis pas Wonder Woman.
Bien sûr. Mais bon, c'est déjà énorme, bravo. Et donc, du coup, si tu pouvais rapidement expliquer ton ou tes principaux résultats. Enfin, je crois que tu as fait plusieurs études, mais peut-être sur une des études que tu as menées.
Alors, c'est un peu facile de répondre parce qu'en fait, on m'a posé cette question à ma soutenance. Quel est ton principal résultat? Ben voilà. Si tu devais n'en dire qu'un. Alors, je vais dire déjà celui-là, mais je vais quand même pas parler que de celui-là. Mais je pense qu'un des principaux résultats, on va dire les plus probants de ma thèse, c'est justement dans cette étude dans laquelle je me suis intégrée à Genève. On a suivi des enfants, du coup, depuis leurs 16 mois jusqu'à leur entrée dans le langage écrit, dans l'instruction formelle de l'écrit. Donc, ils avaient 6-7 ans. Donc, on les a suivis longtemps,
oui.
Ce qui est une des raisons pour laquelle ma thèse a été longue. Une des raisons. Et du coup, un résultat quand même fort, c'est qu'on a mesuré du lexique réceptif, donc pas en production, vraiment en réception, parce qu'avant 2 ans, finalement, c'est peut-être cette mesure-là qui est la plus proche des réelles compétences lexicales des enfants, plutôt que toutes les variations qu'il peut y avoir autour de la capacité à produire ou non. Le lexique réceptif est une assez bonne image, finalement. Et ce lexique réceptif, mesuré avant 2 ans, eh bien, en fait, il est prédicteur des compétences ultérieures en lecture, donc 6 ans plus tard.
D'accord.
Et alors, c'est toujours, toujours ambigu quand on présente des résultats chiffrés. En fait, ça prédit, on va dire, jusqu'à plus de 10% de la précision en lecture 6 ans plus tard et jusqu'à 30% de la capacité de compréhension à l'écrit en lecture, du coup, 6 ans plus tard. Donc, c'est toujours ambigu parce qu'à la fois, on va se dire, peut-être qu'un auditeur un peu naïf va dire, c'est pas beaucoup. Alors, moi, je réponds toujours, heureusement. Heureusement que, du coup, le vocabulaire d'un enfant qu'on mesure avant 2 ans ne détermine pas entièrement sa capacité à lire plus tard parce qu'il y a plein de choses qui se passent et parce qu'on sait qu'il y a des inégalités très fortes avant 2 ans. Donc, c'est important que l'école et plein d'autres stimulations puissent faire bouger les choses. Par contre, ça veut dire qu'il y a quand même une détermination à partir de cette donnée-là.
Oui.
Et ça, c'est quand même assez fort. C'est fort d'arriver à le montrer et c'est fort. On ne l'avait jamais montré chez l'enfant francophone parce que là, du coup, c'était une cohorte francophone. C'était des données qu'on avait déjà vues chez le sujet anglophone. Pas avec des mesures directes parce que là, c'est une mesure directe. Ce n'est pas un questionnaire parental. On a vraiment mesuré directement à partir d'une manip, les compétences lexicales des enfants.
Ouais.
Et puis bah, ça veut dire que peut-être qu'on peut commencer à penser à intégrer aussi des mesures de lexique quand on se pose des questions pour l'écrit, quand on est ortho, quoi.
Voilà. Ouais.
Ça, je dirais que c'est le plus gros résultat de la thèse, même s'il y a plein d'autres choses sur les autres études, parce que comme tu l'as dit, j'en ai plusieurs. J'avais 4 études dans cette thèse et qui ont porté sur différents types de populations. Là, on est sur une population monolingue francophone. Et puis, comme j'ai dit, j'avais aussi des populations TDL et des populations bilingues. Et du coup, bah, là, il y avait d'autres résultats intéressants aussi qui mériteraient qu'on en parle aussi. Mais voilà, s'il fallait en choisir qu'un, c'est celui-là qui est le plus impactant, je pense.
Et du coup, peut-être dernière petite question pour finir. Du coup, maintenant que tu es docteur, quelles sont tes perspectives ? Est-ce que tu vas continuer uniquement dans la recherche, retourner uniquement à la clinique ? Est-ce que tu as réussi une façon de combiner les deux ?
Alors, j'espère avoir réussi à trouver une façon de combiner un peu les deux. J'ai pas de plan. J'ai pas de plan de carrière prédéfini. Actuellement, je suis chercheuse postdoctorale, donc c'est pour ça que j'ai plus d'activité clinique en ce moment, mais j'ai pas complètement plus d'activité clinique en ce moment parce qu'en fait, les projets qu'on mène, ils sont en lien soit avec une pratique éducative, donc en collaboration directe avec des enseignants, soit en pratique directe avec des familles et des enfants. Mmh. Par exemple, cette donnée en fait, du langage, en tout cas du lexique qui est si important si tôt, bah, ça, pour moi, ça a ancré déjà une conviction qu'il y avait chez moi, mais l'importance de la prévention. Et du coup, bah, en ce moment, par exemple, on est en train d'étudier l'effet d'une intervention vraiment qui cible la dyade par enfant lors de groupes dans un quartier dit à éducation prioritaire sur des enfants de 2 ans, justement, donc en préscolaire. Et puis, on met en place des groupes, donc je participe, j'ai formé des professionnels, et puis je participe à ces ateliers qui ont lieu de manière hebdomadaire sur une période donnée. On a un groupe contrôle, un groupe expérimental, et on va voir l'effet de cet accompagnement au niveau des compétences parentales pour voir ça. Donc, pour moi, ça reste un peu de la pratique.
Bien
en tout cas,
sûr.
C'est vraiment la recherche au service de la pratique.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Le format est un peu court, mais tu nous en diras plus donc, lors du webinaire. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le 21 novembre.
Ça marche. Merci, Fanny.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.